la rentrée. Ah, ouais. Un nouvel été terminé. Sable fin et soleil pour certains. Petits-enfants chez grands-parents épuisés mais reconnaissants pour d'autres. Ou encore un été peut-être plus difficile ou douloureux. Été terminé rime aussi avec rentrée, une rentrée de plus qui recommence. Rentrée des plus jeunes, avec son lot de nouveaux amis, nouveaux enseignants à connaître, liste d'achats, planification des activités, réunions diverses à assumer. Rentrée pour la reprise du travail. Une remise en route pas toujours facile pour celles et ceux qui peinent dans leur labeur. Ou encore rentrée comme quête nouvelle d'un emploi. Et ceux qui ne rentrent pas? Oui, bien sûr, pour certains, la rentrée rime avec « ouf, les enfants et petits-enfants ont repris ». Et puis encore celles et ceux, pour des raisons d'âge ou de santé, qui vivent au jour le jour dans un quotidien parfois compliqué. Mais un point commun à toutes ces situations, aujourd'hui et pour les jours qui viennent, une nouvelle page est à écrire et à vivre pour soi, en famille, entre amis et en église. Pour nous aussi, dans cette communauté, il y a une rentrée à partager. Une paroissienne en activité et mère de famille me confiait récemment qu'elle ne vivait pas forcément sa reprise professionnelle avec grand enthousiasme, mais qu'il en était autrement de la rentrée en paroisse. Elle se réjouissait de reprendre avec nous et avec vous, les enfants, les activités habituelles. Notre rentrée est-elle différente des autres? Peut-être, car elle est portée par autre chose, par un autre, qui nous libère de nos soucis pour nous recentrer sur l'essentiel. Le Dieu auquel nous croyons nous accueille simplement tel que nous sommes, sans nous juger ni nous dresser une liste de choses à faire. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui nous offre une parole de libération pour que nous puissions vivre nourris d'espérance, en nous et autour de nous, avec tout ce qui nous fait courir, comme avec tout ce qui nous empêche d'avancer. Voilà une formidable promesse, un cadeau de vie à partager autour de nous. Sous le regard de Dieu, nous sommes, et nous n'avons pas à produire. Rien à prouver. Nous ne sommes pas aimés pour les tâches que nous accomplissons, mais nous sommes aimés car nous existons, tout simplement. Un peu comme un enfant qui vient au monde, aimé par ses parents simplement par le fait qu'il soit là. Et cette affirmation est en fait très protestante. Être et non pas faire. Mais alors, vous allez peut-être me dire, avec ce que nous avons entendu par les mots de Nadine dans la lettre de Jacques, c'est une contradiction. L'auteur écrit en 5 chapitres un enseignement sur la pratique chrétienne. Il partage un code de conduite pour les premières communautés, une sorte de vademécum du bon chrétien. Comment se conduire en tant que chrétien ? Dans les premiers chapitres de sa lettre, l'auteur pointe une première attitude. Il parle de demander à Dieu la sagesse. Je crois en effet que la prière est le premier pas de nos vies chrétiennes. Se remettre à Dieu, lui demander de guider notre route et d'éclairer nos chemins. Une amie aumônier d'hôpital me confiait ces mots dans sa prière avant chaque visite. Éternel, que mon écoute soit la tienne, que mes mots soient les tiens. Et elle, de poursuivre, c'est étonnant comme je me sens portée dans ces moments délicats. Prier. Prier, c'est ce que nous sommes appelés à faire, et d'ailleurs ce n'est pas très compliqué. C'est à la portée de chacun, pas besoin de grands discours. Dieu est notre ami proche en Jésus-Christ. Il connaît notre cœur et entend nos plus simples paroles. Et je vais partager encore une bonne nouvelle avec vous. Dieu comprend même nos silences. Alors, dans notre passage, vous l'avez entendu, il est question du faire. dans la lettre de Jacques, si un frère ou une sœur n'a pas de vêtements et qu'il n'a pas à manger tous les jours, et si quelqu'un lui dit « Allez, va en paix, va t'habiller, bon appétit », ces paroles, à quoi servent-elles si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est morte. Alors, bien sûr, avec ces mots, nous ne pouvons pas ne pas penser à l'actualité de ces derniers mois. Actualité exacerbée par cette photo terrible de cette semaine. Ces flux de population en détresse ne représentent pas alors seulement des chiffres, des concepts religieux, politiques ou économiques, mais ils deviennent nos semblables, appels de frères et de sœurs résonnant dans notre propre humanité. Des visages, des voix, des histoires, des corps, miroirs de nous-mêmes, tous poussés vers un même but, vivre en paix. Et je crois que particulièrement en tant que protestants, nous ne pouvons du moins que compatir et encore mieux agir, comme nous l'explique Jacques dans la lettre. Pourquoi ? Parce que protestants, nous avons été ces persécutés pour leur foi. Parce que protestants, nous avons été ces exilés sur les routes pour avoir refusé de renier notre foi. Parce que nous, protestants, nous avons cherché refuge pour préserver nos vies. Souvenons-nous de notre histoire qui n'est pas si lointaine. Par l'audace et la ténacité de quelques-uns, par leur grande confiance en Dieu, par l'accueil bienveillant de populations aussi, nous pouvons aujourd'hui librement nous dire chrétiens et protestants et vivre ici dans ce temple notre foi. Avez-vous entendu parler du sentier des Huguenots ? Oui ? Ça vous dit quelque chose ? Ce sentier part de Poitlaval, dans la Drôme, et va jusqu'en Allemagne en passant par la Suisse. Il passe d'ailleurs tout près d'ici. C'est un nouveau chemin de randonnée pour les amateurs, je sais qu'il y en a beaucoup ici, de 1600 km. Et ce nouveau chemin de randonnée retrace le parcours des persécutés et des exilés protestants du Dauphiné au XVIIe siècle, après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, ces persécutés et ces exilés qui cherchaient refuge pour vivre leur foi. Il y a d'ailleurs un site internet très bien fait qui relate tout ce sentier. Autre époque, autre lieu, mais le contexte aujourd'hui est bien similaire. Des hommes et des femmes, des familles entières, fuyant leur pays pour vivre leur foi. Et aujourd'hui même, à quelques kilomètres d'ici, notre paroisse sœur et voisine de Valserine-au-Bugey, avec un collectif de communautés chrétiennes de Bellegarde et d'associations, a eu la joie d'accueillir la semaine dernière une famille chrétienne d'Irak. Comme l'écrit Jacques, agir à cause de sa foi. Et alors vous allez me dire, mais être ou faire ? Je commence en vous disant que être protestant, c'est bien dans le seul fait d'être et que cela suffit, et je poursuis en vous demandant d'agir. Alors oui, cette lettre de Jacques a été très mal vue au moment de la réforme. Catéchumène, la réforme, ça vous dit quelque chose ? Oui, non ? Oui, au moins le mot. C'est pas la réforme des collèges, pas la réforme des rythmes scolaires. La réforme protestante, ça vous dit quelque chose un petit peu ? Bon, ben, les catéchètes, il y a du boulot. Alors, pendant la réforme, la pensée protestante s'est levée contre la pensée catholique de l'époque, qui défendait la justification par les œuvres. Alors là, je vous assomme complètement, avec des mots très difficiles. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est la justification par les œuvres. Pour tous, d'ailleurs. Hein. Alors, cela signifie que nous sommes sauvés et aimés par Dieu si et seulement si nous agissons bien. Et les protestants ne sont pas d'accord avec ça. Pour eux, la Bible ne dit pas cela. Les évangiles affirment que nous sommes sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés seulement parce que Dieu nous aime. Alors un des réformateurs, Martin Luther, trouvait dans la lettre de Jacques des possibles justifications d'interprétation, effectivement, de ce salut par les œuvres. Et du coup, il disait de cette lettre, c'était l'épître de paille, c'est-à-dire qu'elle ne valait pas grand-chose. Mais, peut-être que Martin Luther a été un peu sévère. Car je crois que Jacques ne dit pas tout à fait cela. Alors il est bien clair, tout le monde est d'accord, je crois qu'il n'y a pas de foi sans action. Mais ces œuvres que nous faisons, aussi bonnes soient-elles, ne nous donnent pas l'amour de Dieu que nous ne méritons jamais. Cet amour, nous l'avons déjà reçu gratuitement, sans demander, sans rien faire, à nous de l'accepter. Cet amour donné, c'est ce que nous appelons la grâce. Alors oui, nos actions seront bonnes, mais seulement comme le fruit de cet amour de Dieu reçu en premier et gratuitement. Alors je crois que la lettre de Jacques aujourd'hui a toute sa pertinence. Elle nous rappelle qu'une foi vivante produit ses propres œuvres et que notre manière d'agir témoigne de l'amour de Dieu dans nos vies. D'ailleurs, le Christ dans les évangiles va condamner des actes, mais ne condamnera jamais des personnes. On entend souvent cette très belle phrase de la part du Christ : « Va, ta foi t'a sauvé. » Et non pas « Tu es sauvé parce que tu as bien agi. » Ta foi t'a sauvé. Et d'ailleurs, dans toute la Bible, nous reconnaissons cet amour premier de Dieu. Dans le texte d'Ésaïe que Marguerite a lu, nous avons entendu « Le Seigneur m'ouvre l'oreille, le Seigneur vient à mon secours, je sais que je ne serai pas vaincu, c'est lui qui vient le premier. » Alors pour nous aujourd'hui, dans notre rentrée folle et trépidante, quel chemin allons-nous choisir? Il y a des choses à faire, des incontournables, pas tellement nourrissantes parfois, mais il faut y passer, alors il faut les faire. Mais il y en a aussi d'autres, des petites choses du quotidien qui pourraient voir le jour dans vos journées. Changez par votre regard, celui posé sur vous-même, celui que Dieu pose sur vous et celui que vous donnez aux autres. Dans la multitude des tâches, il est important que nous n'en devenions jamais prisonniers, sachant toujours nous en dégager pour revenir à l'essentiel de nos vies. Que dans notre paroisse, notre rentrée est une vraie place. Et je sais qu'elle en a, rien que parce que vous êtes là ce matin. Je sais qu'elle en a par ces catéchètes qui s'engagent. Vous êtes entrés pour vous ressourcer. Vous êtes venus pour entendre une parole, pour comprendre votre vie et découvrir votre vocation au service du Christ. Oui, nous sommes appelés à entrer, mais nous sommes aussi appelés à sortir de nos murs, de nos habitudes, sortir pour rencontrer l'autre, découvrir cet ailleurs qui nous décentre, cet inconnu, miroir de notre humanité. Nous sommes appelés en Christ à vivre notre statut d'enfant de Dieu, se savoir aimer et le partager en actes, naturellement et joyeusement. Croire dans la confiance que cela me suffit. Telles ces paroles extraordinaires de Dieu rapportées par l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen.